2.3.
Hey, tu t'es cru à New York, tu t'es cru à New York.
C'est génial, c'est le meilleur projet qu'on ait fait jusqu'ici.
Radio Campus
1965, la guerre du Vietnam bat son plein. L'Amérique a envoyé ses GIs au sud.
Contestation rime avec répression. Contestation, répression.
Le cortège est protégé par 5 véhicules blindés et un hélicoptère.
Ce sont aussi les premiers bombardements de l'US Air Force au nord. 65, c'est aussi la crise de Saint-Domingue.
Cette mesure provoque une vague d'émeutes d'une ampleur exceptionnelle. 24 morts en 3 jours et des troubles. Échec d'un coup d'État, toujours des campagnes au palais de la
Syrie. De plus en plus, l'Amérique s'érige en gendarme du monde. Et Ben Barka ne cesse de dénoncer partout où il se rend l'impérialisme de l'Amérique et de ses alliés.
Il a provoqué une rébellion militaire qui a abouti à une loi d'Alfonsine, selon laquelle les militaires d'un rang inférieur à celui de colonel n'étaient plus passibles de poursuite.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
Washington est en feu. Les Noirs descendent dans la rue, plus de 500 magasins ravagés, des quartiers entiers incendiés. Bilan, 7 morts, 1200 blessés.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez?
Oui,
mais non, mais moi je vous entends pas. Bonjour. Bon, si, je vous entends.
Si, 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 on nous entend.
Quelques aménagements techniques. C'est un bâton rompu qui démarre sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, hein, tous les mardis, vous le savez, de 19 à 20 heures. Sujet d'actualité, culture, société, etc. Avec ce mardi, Asma. Bonsoir, Asma.
Bonsoir, Hassan. Bonsoir à tous.
Tu vas nous parler d'un film au titre de « Elles n'ont rien oublié ».
Oui, sur la guerre 39-45.
Histoire de femmes.
Histoire de femmes, absolument. Témoignage de 4 femmes.
On en parlera dans quelques minutes, dès que nous pourrons avoir, grâce à M. Erwan qui est à mes côtés, Mourad, qui nous attend au téléphone. Mais je salue Steven. Salut Steven.
Salut Hassan, bonjour.
Oui, mais attends, oui, mais je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, on ne t'entend pas.
C'est bon vous...
mais, là, je t'entends très faible.
Tu m'entends pas?
Non, pas parle. Très faiblement. Est-ce que tu veux changer de micro?
Je veux changer de micro.
Ouais, et celui-là,
là, tu m'entends bien?
Absolument.
Ah oui, mais moi, je m'entends trop bien. Oui.
De quoi tu nous parles aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, on va parler des manifestations qui se déroulent en soutien à la Palestine et d'une association qui s'appelle BUPEAD, donc Bougeons à l'unisson partout pour les enfants autistes et handicaps divers.
Voilà. Et c'était quoi ça? C'était une expo ou...
Non, ça, c'est une association sur Saint-Jean-de-Bray.
Oui.
Et donc,
tu as rencontré les personnes à quelle occasion?
Alors, c'était un samedi dansant.
D'accord. Donc,
voilà, pour faire connaître l'association et justement, notamment auprès du quartier de Saint-Jean-de-Bray.
Ok, mais parfait. Bonsoir, monsieur Victor.
Bonsoir, Hassan. Bonsoir à toutes et à tous.
Comment ça va bien?
Bah, ça va très très bien.
Oui, est-ce qu'on a ensemble n'importe où, n'importe quand? Enfin, je comprends rien. Est-ce que Erwan est à mes côtés parce qu'on n'arrive pas à voir moi? Donc il me met sur l'écran ensemble, n'importe où, n'importe quand. C'est quoi?
C'est Messenger, on va se reconnecter sur un autre navigateur à Stan.
Ah, c'est ça, pour avoir Mourad. On peut l'avoir donc par là. Donc, hein.
Oui, on l'aura dans quelques instants.
Dans quelques instants.
C'est quoi? Je vais
l'envoyer un lien. Oui, et bien. Eh bien, envoie-lui un lien et on va faire ça. Donc, on disait bonsoir à Victor qui est avec nous aussi. Je suis perturbé, moi. Dans le sommaire, donc, Mourad, dans un instant, si tout va bien. Sinon, dans l'émission, nous allons parler également des semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes à Orléans, à l'Université d'Orléans, avec une table ronde vendredi prochain, c'est à 17h. Vous êtes invité, si vous êtes à Orléans, venez nous voir. Il y aura une conférence sur les deux musiques Caraïbes. Oui, c'est-à-dire ah, mais c'est vrai qu'on nous voit là. Alors, voilà. Les musiques de la République dominicaine, la bachata, le merengue, qui sont maintenant des musiques reconnues par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité. Est-ce que Mourad nous entend ? Il n'est pas encore là. Bonjour Mourad. Non plus. Est-ce que je mets un peu de musique en attendant ? On va faire ça. On va mettre un peu de musique, si je trouve. Hein, parce que tout est un peu compliqué aujourd'hui. Allons-y. Ah, mais très bien, les Meridian Brothers. Y Corranto Media Luna. La meilleure musique, elle est sur Radio Campus Orléans, évidemment.
Profesionalismo es importante en la carrera musical. El profesional debe luchar por destacar en su amplio arte. Muchos obstáculos hay de esquivarse, porque los enemigos acechan y sin embargo no prosperan en una carrera imprecisa. La que se torna indecisa y está llena de amargos problemas. Por ejemplo, Edson Belandia, que con su canto tanto inspira y con sabiduría comunica lo que de su pecho emana. O el virtuoso Pedro Ojeda, que a los tarros voltea y percute, y con política discute los eventos de este país. La corrupción que pasa aquí, con su arte llega a la cumbre. También está Mario Galeano, y con su buen frente cumbiero, la cumbia ha llevado hasta el cielo, y del cielo ha regresado. O como el trío Los Pirañas, formado por Mario y Pedro, y del otro no me acuerdo. Pero si tocan psicodelia, nos hacen olvidar la miseria con todos sus ritmos perfectos.
Les Meridian Brothers, c'était pas prévu, dans la bataille rompue, mais c'est toujours bien. On va commencer les chroniques et on retrouvera Mourad dans quelques minutes. Erwan est en train de préparer tout ça. On va commencer avec toi, Asma.
Oui.
Juste après le jingle.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Avec ce film qui s'appelle Elles n'ont rien oublié. Déjà sorti ou pas ?
Il est sorti depuis le 17 mai, donc jeudi dernier.
Et là, tu
vendredi dernier ? Ou jeudi dernier,
je
j'ai un doute,
plus.
Le 17 dernier.
Ouais, le 17.
Il était déjà sorti en 2022,
oui.
Et il ressort cette année au cinéma des Carmes, donc depuis le 17 mai, fin de la semaine dernière. Et il ressort dans plusieurs salles en France, une cinquantaine de salles, le 29 mai.
J'ai lu ça, ouais.
Voilà, ouais. Le 29 mai. Ce sont deux frères donc, qui ont réalisé ce film, Germain et Robin Aguès. Ils sont tous les deux les petits-fils d'une grand-mère qui a vécu et traversé la Seconde Guerre mondiale. C'est un récit qu'ils connaissent très bien, donc, par leur grand-mère. Et puis, quand ils ont voulu, un jour, faire un documentaire à partir de ce témoignage, à la base, ils font des courts-métrages un peu loufoques, humoristiques. Et à partir du témoignage de leur grand-mère, ils ont voulu faire un documentaire sur un témoignage de femmes qui ont traversé la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils recherchent et ils rencontrent Frédéric, Lily, Geneviève et Marie-Claire, qui est leur grand-mère qu'on retrouve dans le film. C'est un film donc de témoignage où quatre voix de femmes racontent, et c'était important pour eux de se focaliser spécialement sur des témoignages de femmes. Je leur ai demandé de revenir un peu sur ce parti pris féministe de la part de deux hommes, ce qui est assez rare. On écoute Robin.
On a commencé en fait avec le témoignage de notre grand-mère, Marie-Claire, qui était donc orléanaise et qui raconte un peu le quotidien d'une civile durant ces six années de guerre. Et effectivement, dès qu'on a commencé à travailler sur ce sujet, on s'est aperçu qu'il y a énormément de films qui retracent le parcours d'hommes remarquables, des soldats, des résistants, des hommes politiques qu'ils méritent. Mais par contre, des films qui s'intéressent à ce que faisaient les femmes pendant la guerre, là, il y en a vraiment beaucoup moins. Et donc, nous, on a souhaité apporter à notre échelle un peu notre pierre à l'édifice et essayer de valoriser des parcours féminins qui, à nos yeux, le méritent et se doivent d'être partagés au plus grand nombre.
Donc, ce sont des témoignages de femmes sous forme de récits. Il suffit juste de les écouter. Elles racontent des anecdotes très concrètes de la vie quotidienne. Elle parle au présent avec une grande éloquence, une grande oralité. Et le film, donc, aussi entre des images d'archives, avec un aspect qui raconte la grande histoire, en fait, qui raconte toujours le contexte politique, ce qui se passe à cette époque, et qui se rapproche sous la forme de témoignages. Et là aussi, on écoute Germain, qui nous explique plus en détail le format choisi.
Et l'idée, c'était de les filmer chez elles, dans leur intimité, faire un peu... C'est un peu une rencontre qu'un petit enfant peut avoir avec sa grand-mère, et essayer d'amener le spectateur dans cette espèce de moule pour que le spectateur... C'est comme si c'est sa grand-mère qui lui confiait cette histoire, et donc avec les témoignages, des petites reconstitutions, petites scénettes pour illustrer ce que raconte l'histoire de ces quatre dames, et aussi des images d'archives pour toujours illustrer, et surtout que les images d'archives, c'est des images familiales qui ont été réalisées par le beau-frère de notre grand-mère, qui avait une caméra pendant la guerre et qui a pu filmer un certain nombre de choses.
Le film est truffé d'anecdotes, donc très marquantes pour le spectateur. Et il y a un espèce de tournant, à peu près à une demi-heure du film. Le récit de Geneviève, qui tombe un peu sur le spectateur et qui marque un tournant. Et Geneviève, elle raconte pendant son enfance qu'elle assiste, elle est très jeune, elle a une dizaine d'années, avec toute la famille, à l'assassinat du petit frère, donc son petit frère à elle, de 6 ans. Elle dit « c'est lui qui a tout pris », pour faire écho à l'arme à feu qui ne visait que lui. Elle raconte le périple de la famille pour arriver à enterrer le corps de l'enfant, comment ils s'y prennent pour envelopper le corps, le garder, le transporter jusqu'à pouvoir lui consacrer des funérailles. Et à la fin de ce récit, elle dit « Donc voilà, la résistance à partir de là, c'était évident pour moi ». Et le mot de résistance prend un nouvel écho, parce que le spectateur, il est traversé, il le sent dans son corps. Et j'ai demandé à Robin Aguès de revenir sur ce témoignage central du film.
Bah, c'est vrai qu'en s'appuyant sur des témoignages directs, déjà il y a une émotion qui n'est pas froide, justement, comme effectivement ça peut être des fois le cas à l'école ou voilà, quand on n'est pas dans ce type de transmission. Et effectivement, il y a une émotion qui est assez incroyable. Geneviève, nous, c'est une femme vraiment qui nous a beaucoup touchés. Quand on nous demande parfois laquelle est votre préférée, bon, ça, il y a beau avoir notre grand-mère dans le film, très très sincèrement, le témoignage de Geneviève, il est vraiment fort, il est puissant, et surtout que c'est une dame qui vivait, malheureusement elle est décédée il y a peu, mais qui vivait dans un anonymat assez total, malgré ses faits d'armes quand même absolument exceptionnels. Et on milite, on essaye de faire en sorte qu'elle soit honorée comme il se doit. On aurait aimé que ce soit de son vivant. Maintenant, à titre posthume, il y a encore bien sûr la possibilité, donc on va tout faire pour que sa mémoire perdure et que l'histoire de ces quatre femmes soit véhiculée le plus possible.
Il y a aussi un passage très fort également. Là, c'est Frédéric qui nous raconte quelque chose qui, pour nous, est évident, qui concerne le droit de vote des femmes, qui est apparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945. Et Frédéric, elle nous relaye les positions des femmes de cette époque. C'est très intéressant, ça paraît évident, mais elle nous relaye, par exemple, sa grand-mère qui avait sur elle un savon sur lequel était gravée une phrase « Les femmes doivent voter ». Et elle dit ça avec une grande émotion, et elle mentionne même qu'elle a l'idée de déroger au droit de vote. Ça lui paraît fou qu'aujourd'hui des jeunes gens ne votent pas, et c'est presque scandaleux. Elle dit « Vous vous rendez compte ?» Je la cite « Vous vous rendez compte, si je votais pas, mémé, elle me flanquerait une fessée, elle m'engueulerait. » Ça lui paraît fou. J'ai demandé à Robin Agas de revenir sur cet aspect du film.
Par exemple, notre grand-mère nous a parlé de la première fois où sa sœur, qui était majeure, a pu aller voter, etc. Alors, c'est pas dans le film parce que ces élections-là, elles ont eu lieu après la guerre. Mais oui, on voulait vraiment parler du droit de vote des femmes. C'était vraiment très important. Et quand on voit la façon dont Geneviève parle de du moment où elle a reçu cette information, elle dit, moi, avec tout ce que je faisais, j'ai plus les termes précis, mais voilà, moi, j'en fais autant que les autres. Je mérite largement d'aller voter. Et ça, c'est vrai que c'est aussi une leçon. C'est important de d'assimiler ça et de se dire il faut voter, peu importe, on vote blanc, mais enfin moi je pense que c'est très important de voter, et surtout quand on voit que bah finalement il y a 80 ans les femmes pouvaient pas le faire, et voilà, c'est un droit qui aujourd'hui est acquis, mais l'histoire malheureusement est souvent cyclique, se répète, et voilà, tant qu'on peut aller voter librement, faisons-le quoi.
Aller voter librement.
Donc malheureusement, ces trois femmes dont je viens de vous parler nous ont quittées récemment. Il reste la quatrième, Lily, qui raconte aussi beaucoup d'anecdotes de tous les camps par lesquels elle est passée jusqu'à la libération. Et puis la suite, parce qu'elle continue, aujourd'hui d'intervenir dans les écoles. Elle a 90 ans. C'est Germain Agas qui nous explique plus en détail ce qu'elle fait aujourd'hui.
Et ce qu'elle aime à dire aussi, c'est que c'est pas le devoir de mémoire, c'est le travail. Et le devoir de mémoire, parce que c'est quelque chose qui se travaille tous les jours, d'aller au contact des jeunes pour qu'elle raconte son histoire. Et elle aime à dire « vous êtes mes petits messagers ». Quand elle nous avait rencontrés, elle avait dit « vous êtes mes petits messagers, parce que ce que j'ai vécu, je ne vais pas pouvoir le dire jusqu'à un moment, je ne pourrai plus le raconter, ce sera à vous de le raconter, donc vous êtes mes petits messagers, envoyez l'histoire de ma famille, l'histoire de la grande histoire de tout ça ». Et c'est, enfin, voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on fait à travers le film. On se déplace et on le projette aussi en scolaire pour toujours dans cette continuité de transmettre l'histoire de ces quatre femmes.
Voilà, on a beaucoup entendu parler de cette Seconde Guerre mondiale, on a eu des cours, on la connaît plutôt bien, mais il y a vraiment quelque chose de particulier, de bouleversant dans ce film. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'avant-première, beaucoup de gens dans la salle avaient du mal à parler, avaient la gorge serrée, étaient très émus face à ce film. Et voilà, et c'est le témoignage de femmes aussi, ce qui est assez rare.
Oui, justement, alors on va rappeler le nom de ce film documentaire, parce que c'est, oui, c'en est un.
Elles n'ont rien
oublié. Et ça sera évidemment au cinéma Les Carmes.
Oui, voilà. Exactement.
Film très bien. Ouais, j'imagine. J'irai le voir, vraiment. Après le jingle, on essaye. Alors Erwan a ouvert sur les écrans, j'ai plein de trucs. Je suis pilote d'un jumbo. Un jingle, et ensuite on essaye de joindre Mourad.
Il y a quelques instants, en tout cas.
Non, mais c'est pas ça. Bon, on essaie de le joindre maintenant. Mourad ? Allô, Mourad ?
Allô ?
Ah, mais si. Mais ça marche. C'est un nouveau.
Eh ben, c'est magnifique. Vive le progrès. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hassan.
Ah, moi,
bonsoir,
je découvre.
Ouais. Bonsoir Mourad.
Et en plus de ça, je le dis aux auditeurs. Je te voyais tout à l'heure et puis là, je te vois plus. J'avais ton image à l'instant, Mourad. Merci d'être resté et pour ta chronique de décryptage de l'actualité. On va commencer par l'actualité locale orléanaise. Un jeune homme, un cycliste orléanais, est mort. C'était mercredi dernier, percuté par un camion de livraison qui n'avait pas respecté les obligations de prudence et de sécurité. Une mort qui a choqué, évidemment. Alors, beaucoup de réactions, évidemment, sur la mort de ce jeune homme sur les réseaux sociaux. Comme c'était un des pages de la fête de Jeanne d'Arc il y a quelques jours. Des réactions qui questionnaient notamment le plan vélo à Orléans-Mourad. La mairie d'Orléans, dans un communiqué, s'est émue de ses réactions et parle de commentaires indécents et de récupération idéologique. Tu nous entends ?
Oui, pardon, je pensais que tu
j'ai pas fini.
Oui, bien sûr. Alors, en fait, c'est ce qu'il y a, c'est que les associations de vélo, de défense du vélo, de la place du vélo en ville, se sont évidemment émues, étaient à la fois consternées, mais comme je le suis, hein, c'est dramatique, évidemment. Un gamin de cet âge-là, enfin, je veux dire, c'est pas possible. Mais évidemment, ça fait résonance avec le fait qu'ils alertent depuis des années sur le fait que le plan vélo a été complètement abandonné, d'une part, et d'autre part, du fait que des élus, je pense à Romain Roy, qui m'avait dit sur cette antenne, qui m'avait dit que jamais Le vélo ne s'était aussi bien porté que depuis qu'il est là, ce qui est même pas un mensonge, c'est même pas un déni, c'est carrément une crapulerie. Et donc forcément, quand vous militez pour la place du vélo en ville, que vous voulez tout simplement, et c'est ce que disait à mot à peine couvert Fabos sur les réseaux sociaux, Fabos qu'on croise régulièrement ici avec bien ses sûr. Messages, à savoir que non, il a pas envie, mais moi non plus. Que de lâcher nos gamins dans les rues d'Orléans et qu'on apprenne par la police, par les pompiers, par la gendarmerie, qu'il a d'abord été frappé, qu'il est dans un état critique et que finalement il est décédé. Mais enfin, c'est diabolique. Comment Serge Gouard peut-il parler d'indignité concernant des associations qui, au contraire, on pense aux DAMO, hein, bien sûr, des associations qui, au contraire, militent pour la sécurisation des pistes cyclables, pour le respect des personnes à mobilité réduite. Ces gens-là se battent bec et ongle avec parfois leurs moyens pécuniaires, tout simplement. Ils vont en justice, ils vont au tribunal administratif. Et là, ils apprennent une nouvelle fois, que quelqu'un, qu'un enfant est mort en vélo dans une zone à 10 km/h. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, stop. Il faut quand même pointer. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un tout petit peu choquant. J'entends la réaction de la mairie de dire que le garçon vient de décéder et que d'un coup les assos communiquent. Mais enfin, je veux dire, c'est leur légitimité et ça leur malheureusement, c'est ce drame absolu leur donne raison et disqualifie totalement cette mairie incompétente qui vit, je le redis, à l'époque de Pompidou avec le tout bagnole. Les voitures peuvent se garer absolument n'importe où, elles en ont rien à cirer, enfin du moins les propriétaires n'en ont rien à cirer. Il y a une politique du tout bagnole à Orléans qui malheureusement aboutit effectivement à ces drames-là. Et donc l'indignité, elle est clairement, très clairement, je le dis très simplement, du côté de la mairie qui a enterré le plan vélo et qui fait qu'on aboutit, alors je ne dis pas que c'est la mairie, hein, je dis que ça fait qu'on aboutit à ce genre de drame, et ce genre de drame peut se reproduire s'il n'y a pas une reprise en main de cette question de plan vélo de 2019 donc c'était à l'époque d'Olivier Carré, et qui a été complètement enterré. Mais alors, ça aurait été enterré avec alors pour le coup avec dignité et avec reconnaissance du fait que on s'en fout des vélos, comment on veut du tout bagnole, pourquoi pas. Je veux dire, ça peut être entendable. Non, c'est fait en disant que on fait tout pour le vélo, alors qu'en fait c'est complètement faux. Donc c'est des mensonges en série, et à force de mentir, la vérité nous rattrape, et là elle nous a rattrapé de manière, je le redis, absolument dramatique avec la mort de ce jeune garçon qui avait la vie devant lui.
Absolument. Tu parlais de DAMO, l'association, l'acronyme de Droit, Accessibilité, Mobilité, Métropole, Orléans, qui avec l'autre association Vélorussion avait appelé à un hommage digne, d'après ce que m'ont dit les gens qui y étaient. Il n'y a pas eu de polémique, d'insultes de la mairie. Mais comme pour mettre de l'huile sur le feu, le premier adjoint au maire, Monsieur Montillo, Florent Montillo, était ce matin, je crois, chez nos amis, nos confrères de France Bleu Orléans. Et là, il a carrément dit que c'était la faute des cyclistes.
C'est ça ? Ça, c'est juste impossible. Alors, j'espère qu'on va pouvoir écouter un extrait. C'est juste impossible. C'est-à-dire que lorsque la mairie... Alors, j'avais écrit sur le fait que la mairie ouvrait des espèces de possibilités aux gens de pouvoir, aux citoyens, de pouvoir déposer des questions qui vont être débattues, qui vont être auxquelles on va répondre durant les conseils municipaux. Sauf qu'il y avait 18 filtres. Et parmi les filtres, il y avait les mairies de quartier, il y avait toute une série de choses, il y avait le conseil municipal, enfin une partie du conseil municipal. Et à la fin, on est arrivé, je crois, dans les premières questions, voire la première question, à parler du danger des vélos. Et donc, c'est vraiment une obsession de la ville d'Orléans. La ville d'Orléans est anti-vélo. C'est l'anti-Clermont-Ferrand. C'est vraiment incroyable. Et donc, ils vont manipuler l'information, ils vont trier ils vont trier les... Pardon, je suis dans la rue, hein, pardon pour les bruits extérieurs. Ils vont trier les photos, ils vont filtrer les photos, les questions, pardon. Ils vont filtrer, ils vont utiliser tout ce qu'ils peuvent utiliser pour dire que c'est la faute des vélos. Donc, vous voyez, quand je vous dis tout à l'heure que on est resté à l'époque de Pompidou, c'est pas une formule, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ils sont littéralement bloqués sur le tout bagnole, sur le no parking no business qu'emploient les commerçants à l'année, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de parking partout, avec des voitures partout, et ben il y a pas de business et c'est complètement délirant.
On écoute, donc, voilà. on écoute Florent Antillot.
Merci.
Allez, on
merci
écoute.
Le maire, il y a un arrêté municipal. Les livraisons, c'est 10 à l'heure. Donc là, en l'occurrence, pour être très précis, on doit être à peu près au double. C'est à 20 à l'heure. Il n'était pas sur une autoroute à 80, à 130 à l'heure, ni même à 50 à l'heure, ni même à 30 à l'heure.
Mais ça crée des drames.
Mais les drames, ils sont concomitants au fait, à la fois qu'on a un camion qui, de toute façon, ne pouvait pas ne pas arriver dans le carrefour. Il n'avait aucune visibilité. Si c'était arrivé comme un stop avant, de toute façon, il n'aurait jamais vu cet adolescent descendre. C'est impossible. Il fallait qu'avec sa cabine, il puisse rentrer, de toute façon. Voilà. Et quand on arrive à peu près à 50 à l'heure en vélo, de toute façon, j'ai même vérifié, je me suis dit, mais est-ce que, par exemple, il n'aurait pas dérapé? Est-ce que, par exemple, il y avait... Non, la chaussée était extrêmement sèche. Alors qu'il y a des fois où, surtout
c'est
ces jours-ci, où
ces
c'est extrêmement humide avec les pavés. Voilà, ou même des piétons, ou même, voilà, ont du mal à marcher quand il pleut et que les pavés sont mouillés. Non. Vraiment, là, on a regardé, c'était extrêmement sec. Voilà. Donc, on a les contrôles, on les a.
Ouais, quand même, 50 km heure, il roulait à 50 km heure, ce gamin, Mourad.
Il est trop rapide.
Non, oui. Mais c'est complètement délirant.
C'est terrible.
Ça me rappelle le storytelling de Serge Gouard pendant le confinement qui racontait sur Télé Mille Collines. CNews, dont il était habitué, qui racontait que les commerçants tous les jours l'appelaient et qu'un jour il avait peur de ne plus entendre l'un des commerçants parce que. Donc c'est du storytelling, ça c'est des choses qui ne sont pas du tout vérifiées pour l'instant. Et c'est complètement, voilà, ça vient justifier l'injustifiable, à savoir que bah non, les bagnoles doivent être contrôlées, surveillées dans les zones piétonnes, voire interdites aux heures de circulation des gens qui ne travaillent pas, c'est-à-dire
normal,
hors livraison. Oui, c'est ça. Mais là, je vais oser dire ça. Alors, faire un communiqué en parlant d'indignité et oser dire que le principal problème des Orléanaises, ce sont les vélos. C'est waouh, quoi.
Ouais,
là, j'avoue que
c'est super waouh. Wow,
j'avoue qu'il y a des sujets, sur lesquels je suis. Je trouve. Mais très franchement, je trouve Florent Montillot honnête. Là, je ne comprends pas son attachement. Alors, peut-être par électoralisme, mais bon, il n'y a pas d'élection en vue.
Il n'y a pas d'élection en vue, ouais.
Pas avant 2026. Donc, je ne comprends pas. Honnêtement, je ne comprends pas.
Bon. Moi, je voudrais assurer des amis de Damo et de Vélorussion de mon amitié ici même. Et maintenant, s'ils nous écoutent, continuez le combat. Des amis.
Oui, et puis vraiment, je le dis, vraiment nos sincères condoléances.
Absolument.
Parce que vous imaginez à la famille, évidemment, aux amis, mais on imagine les amis d'un gamin qui du jour au lendemain ne vont plus le voir arriver en classe parce que il s'est fait faucher et qu'il est. Enfin, c'est dramatique. Honnêtement, j'ose même pas imaginer. Donc oui, je rejoins Serge Gouard, un peu de décence dans ces moments-là. S'il vous plaît.
Bien sûr. Deuxième sujet, Mourad, la mort du président iranien Ebrahim Raisi, qui a occupé les médias à travers le monde tout le week-end dernier. Les recherches pour retrouver les restes de l'hélicoptère, retenez bien, hélicoptère, qui s'est écrasé, ont été très longues, les recherches. L'occasion pour certains de faire maintes supputations. La Palme d'Or revient à la chaîne de télé franco-israélienne I24, dont un journaliste, mais non, c'est pas un journaliste, David Haïk, il est analyste politique, il paraît, a sorti ceci, c'était à 15h03 dimanche. Écoutez bien.
Il y a quelques instants, ou en tout cas peut-être pas le Hamas de manière officielle, s'il peut réagir de manière officielle, mais en tout cas un groupe du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kouptar. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien entendu, comme cela fait partie de ces rumeurs qui circulent.
Monsieur et Madame Kouptar, on est fils. Mourad.
Bah, le rire de Victor, le rire de Victor traduit le malaise.
Absolument, mais tout le monde est mort de rire dans le studio. Ouais.
Ben, oui, non, mais ça fait des semaines, des mois que dans les chroniques, chez toi, sur le Média TV, ou ailleurs, dans l'Huma ou dans le Canard, je pointe le fait qu'I24 News est une chaîne de propagande pro-Netanyahou, pro-Likoud, pro-génocide, voilà, qui fait venir sur son plateau des gens d'une incompétence qui force le respect, qui force l'admiration. Je pense à des journalistes mythomanes qui ont été condamnés par des pays africains, notamment par un pays africain pour avoir participé à un coup d'État. Donc c'est quand même extraordinaire de pouvoir participer à un coup d'État, d'être condamné à plusieurs dizaines d'années de prison et de pouvoir être intervenant sur I24 News. Il y a des gens voilà, au profil psychiatrique un peu troublé qui appellent à tuer. Il y a des gens qui viennent appeler à balancer une bombe atomique sur Gaza. C'est quand même extraordinaire. Et là, donc, on se dit, il a quand même resté quelques journalistes un peu sérieux parmi tout ça. Et effectivement, le spécialiste, l'expert l'expert politique, hein, c'est ça,
il se dit analyste politique.
Analyste politique, merci. Oui. Qui vient balancer cette histoire d'Élie Kouptar. Alors, il faut savoir que donc, dans la langue arabe, en fait, tout ce qui, en gros, est un petit peu moderne, genre l'automobile, l'électricité, les hélicoptères, ça. Dans la langue arabe, en fait, ça a été traduit, ça a été arabisé. Donc, vous voyez, tricity pour électricité, automobile, machin, voilà. Et donc, évidemment, l'hélicoptère ne n'y échappe pas, puisqu'il est arrivé bien après la création de la langue arabe. Et donc, évidemment, ce qu'il faut mettre en juste, alors tout petit crédit, c'est qu'effectivement, c'est une chaîne Telegram que j'ai pu consulter, qui avait effacé donc du coup ce message.
Ah, mais tu l'as trouvé, toi?
Une chaîne Telegram que j'ai pu consulter.
Ah, j'ai essayé, mais j'ai pas trouvé.
C'est une chaîne du Hamas, effectivement, une chaîne Telegram du Hamas, mais voilà, c'est quelqu'un qui, je pense, au premier degré a balancé ça.
Enfin,
le travail d'un journaliste, même, c'est d'aller vérifier. Et là, de dire information à prendre avec des pincettes, ça ne veut rien dire. Soit on vérifie, soit on ne vérifie pas. Ouais. Et au moment où il a prononcé Hélicoptère, je veux dire, on dirait un sketch de jazz, qui est un humoriste qui imite l'accent portugais avec bienveillance, hein, mais qui imite l'accent portugais, justement, qui se moque. Hélicoptère, je sais pas quoi, mais c'est tellement risible que voilà, là ils perdent absolument tout crédit. J'ai vraiment hâte qu'on puisse fermer cette antenne, parce que c'est plus possible. C'est jusque là c'était de la propagande crasse et grasse. Là on est carrément dans le délire et là ils se sont, je pense, j'espère, ridiculisés ad vitam aeternam.
Victor ?
Oui, surtout qu'en plus, c'est pas quelque chose qu'on est incapable de faire, puisque la France avait coupé la chaîne de télévision de propagande de Poutine, là, je sais plus comment elle s'appelait.
Rochatelet.
Donc, comme quoi, c'est des choses qu'on est capable de faire, surtout que maintenant, manifestement, I24 News fait la propagation d'un génocidaire, on peut officiellement le dire, d'après l'arrêt de la Cour internationale de justice, donc voilà, ce serait peut-être l'heure de le faire.
Ah. Ben oui, mais bon, le propriétaire, vous savez pas qui c'est. Vous savez, voilà. Troisième sujet, Mourad. Et je voudrais que vous, amis jeunes, proches futurs journalistes, vous écoutez cette partie de la chronique sur le média où tu officies également. De temps en temps, tu reçois des invités. Et la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, dans la semaine dernière, tu as reçu Béli Nabli.
Il y a 15 jours, oui. Il y a 15 jours.
Béli Nabli, qui est un spécialiste, un professeur de droit. On le voit généralement sur des chaînes mainstream, là, enfin voilà, mais il y va.
Oui, LCI notamment, régulièrement, oui, absolument. Et puis sur France Info, récemment, je l'ai encore vu il y a 2 jours, effectivement.
Ouais, et qui dit toujours des choses très précises et très vraies, en matière de droit en tout cas. Et j'ai gardé cette partie, hein, à mes auditeurs, je vous invite à aller regarder sur la chaîne YouTube, notamment du Média, il y a toute l'interview qui est superbe. Bravo Mourad, avec Théophile Guamo. Et j'ai gardé la question que tu lui as posée sur, mais n'avez-vous pas l'impression de participer à un barnum comme ça, un cirque? Et écoutez bien sa réponse.
Bon, d'abord, le mouvement général, on ne peut pas y échapper. La critique que vous pouvez développer sur ce que deviennent les médias, mainstream, les chaînes d'infos continues en particulier, difficile de ne pas la partager. Il faut développer un regard critique sur leur évolution dès lors qu'il y a un problème, j'allais dire, par rapport aux faits, en tous les cas, par rapport aussi à la déontologie journalistique. Donc, de ce point de vue-là, il faut reconnaître sa propre limite, ses propres limites par rapport à un mouvement qui nous embarque tous. Ensuite, moi, ce que je peux dire par rapport à ma petite expérience en la matière, c'est qu'en fait, on peut naturellement critiquer une ligne éditoriale. Chaque chaîne a une ligne éditoriale. Après, j'ai remarqué quand même que les séquences pouvaient être plus ou moins autonomes. Les équipes même qui constituent la préparation d'une émission ne sont pas exactement les mêmes, du programmateur jusqu'au présentateur. J'allais dire, parfois même la ligne n'est pas exactement la même. Et donc, pour ce qui est de ma propre expérience, je n'ai pour l'instant pas participé à ce type de barnum, de cirque médiatique, parce que tout simplement, j'aurais refusé. Alors, pour être tout totalement honnête en la matière... J'ai participé au premier numéro de Pascal Pro au début de l'émission. J'ai oublié son nom, tellement je ne regarde plus. L'heure des pros, justement. Mais ça a déjà 5-6 ans. C'était le début. Personne ne connaissait ni l'animateur, ni l'émission. Moi, je connaissais iTélé, en fait. Et iTélé, j'y étais déjà invité. C'était vraiment une chaîne où je me sentais très bien. On pouvait parler librement. Puis il y a eu cet enchaînement, il y a eu des alertes. Bon, on m'invite à cette émission de débat public. Je me dis, bon, ben, je participe à ce type d'exercice, pourquoi pas, voyons voir. Et au départ, ça allait à peu près. Je veux dire, il n'y avait pas, on n'avait pas basculé mécaniquement et rapidement dans ce qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, lorsque progressivement une ligne s'est affirmée, de plus en plus explicite, bien, c'est notre liberté de dire stop, de ne plus y aller, tout simplement, je veux dire.
Absolument. Hein. On se pose souvent la question ici, Mourad, avec toi. Hein. Est-ce qu'il faut y aller sur ces chaînes? Est-ce qu'il faut aller chez Pascal Pro quand on a des choses sérieuses à dire? Voilà, quoi.
Oui, alors je crois que Bélir Nabli, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, d'extrêmement posé, c'est pour ça que j'ai souhaité l'avoir sur mon plateau, est quelqu'un qui, alors il nous l'a dit pendant l'interview, il n'est pas payé.
Oui,
et il n'est pas payé justement pour conserver sa liberté.
Tout à fait.
Et pour pouvoir dire bah, du jour au lendemain, bah non, quoi, je ne viens plus. Voilà, il apporte une vraie plus-value. Simplement, voilà, je pense que sa force, c'est justement d'être posé, d'être calme, d'être érudit, de connaître ses sujets, et du coup de déstabiliser, mais à son, peut-être à son corps défendant, hein, je sais pas, mais de déstabiliser les gens en face de lui qui eux sont complètement incultes, incohérents et ne connaissent pas les sujets, notamment sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc je pense que pour le coup, j'ai envie de dire qu'il a son utilité et que je comprends sa démarche sur le fait de voilà, il est invité à escalité, hein, il est invité en qualité de professeur de droit, connaissant ses dossiers, et donc voilà, il vient apporter un tout petit peu plus de voilà, un tout petit peu plus de nourriture aux téléspectateurs. Et je te remercie vraiment, Hassan, d'avoir diffusé cet extrait, parce que on critique de manière assez régulière ici les médias et leurs dérives. Là, on a le contre-exemple
de
gens qu'on devrait avoir de manière plus régulière et plus récurrente sur les plateaux, et notamment sur le service public. Voilà, avec ce fameux Bélir Nabli.
Oui.
Voilà, donc merci d'avoir passé cet extrait.
De rien. Et plus loin dans l'interview, il dit quand même, il dit que sur LCI notamment, il se trouve en face de généraux ou d'ex-généraux qui disent des choses, et je le sais aussi, toi, je sais que tu le sais également, certains généraux qui disent des choses, j'allais dire vraies, sourcées, tout ça, voilà. Et donc, ils jettent pas tout, en fait.
Oui. Il dit très précisément que, en fait, lui n'a pas à douter de ce qu'annoncent, de ce que racontent les généraux qui sont pas de lui, parce qu'ils connaissent leurs dossiers, et que lui ne connaît pas les dossiers militaires. Et c'est un peu ce à quoi je m'astreins. C'est-à-dire que les sujets que je ne maîtrise pas, je n'en parle pas. Et donc, quand je condamne les toutologues, ce qu'on appelle les toutologues, c'est-à-dire les gens qui parlent de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire 99% des intervenants sur les plateaux télé, qui sont capables, je pense à Alain Boer ou à d'autres, qui sont capables d'ergoter ou Rachel Kahn, qui sont capables ou Raphaël Entoven, qui sont capables d'ergoter sur tout. Oui, pour ne pas les citer, sinon j'aurais cité aussi Caroline Forest. Hein.
Aussi, ouais.
Mais c'était pas. Mais voilà, c'est l'antithèse de ça. C'est-à-dire que vraiment, et moi vraiment, j'essaie de m'astreindre, c'est compliqué parce qu'on a envie de s'exprimer, forcément, humainement, on a envie de donner son point de vue, son opinion. En fait, sauf que son point de vue et son opinion, ça ne regarde que soi, ça n'intéresse pas grand monde, et que lui l'a compris et donc ne fait attention, comme j'espère le faire également à mon niveau, à savoir parler sur ou ergoter sur des sujets qu'on ne maîtrise pas. C'est très simple, hein. Et si tout le monde faisait ça, je pense qu'on aurait quand même un paysage audiovisuel un peu plus sain et un peu plus nourrissant.
Clairement, clairement. Merci, cher Mourad. Oui, tu, maintenant, tu reçois aussi dans cette émission L'œil de Moubou. Je sais que on parlait tout à l'heure avec Steven du rapport sur l'audiovisuel. Absolument. Et je lui disais d'aller regarder les dernières interviews que tu as eues, ces deux élus qui ont participé à cette commission.
Oui, deux députés, dont on a eu la chance de recevoir donc vendredi dernier le rapporteur, Aurélien Saint-Toul, voilà, et puis sa consœur d'Europe Écologie Les Verts qui nous ont expliqué, en gros la cuisine, l'arrière-cour de cette commission et la manière dont ils ont vécu cette commission, et c'était vraiment effectivement très très intéressant parce qu'ils ont donné des éléments que nous n'avions pas d'une part, et puis nous sommes à quelques encablures en fait, puisque le Média TV a déposé il y a une quinzaine de chaînes en gros dont le mandat va être renouvelé, alors positivement ou négativement, hein, c'est-à-dire que concrètement l'ARCOM peut soit supprimer la TNT à ces chaînes, soit les reconduire, et évidemment et naturellement on se pose la question pour des chaînes comme CNews, C8, de savoir si alors qu'ils violent de manière conséquente, répétitive et militante le cahier des charges de l'ARCOM, notamment sur le pluralisme et sur la vérification des informations, on va voir si l'ARCOM a le courage d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'une fois passées les fameuses amendes extraordinaires qu'ont dû payer, notamment je pense à l'émission d'Hanouna, donc qu'a dû payer Bolloré, oui. Voir s'ils vont jusqu'au bout de la démarche et dire stop. Ce n'est plus possible. On verra ça dans quelques semaines. On vous tiendra évidemment informé.
Absolument. J'aimerais bien qu'on en parle avec Steven qui est également assez.
Oui, carrément.
Assez d'accord pour regarder un peu le rapport et qu'on en parle ici dans une future émission. Merci à toi, Mourad.
Steven, c'est 243 pages. Hein.
Oui, non, mais t'inquiète, oui, j'en ai bouffé des rapports, donc ça peut le faire.
Voilà, je me le suis infusé, il faut y aller. Hein. Il faut prendre un petit peu de temps.
Ouais, ça va le faire.
Merci à toi, Mourad, et à très vite sur cette
antenne. Merci infiniment. Merci.
Attends, à très bientôt. Avant de partir, j'ai envie de vous repasser ça.
Il y a quelques instants, en tout cas, peut-être pas le Hamas de manière officielle, s'il peut réagir de manière officielle, mais en tout cas, un groupe. Du Hamas qui s'exprime sur le Telegram affirme que le pilote de l'hélicoptère serait un agent du Mossad. Il donne même son nom, Eli Kouptar. Est-ce que c'est vrai ou pas? Bien entendu, comme cela, c'est parti de ces rumeurs qui circulent.
Allez,
c'est ton bêtisier.
Voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut le garder. Il faut le garder. On pourrait, Erwan, le mettre sur.
Le jingle.
Ouais, sur des jingles entre deux musiques. Merci Mourad, à très vite.
Merci infiniment à vous. Bonne fin d'émission. Je vous écoute. À très vite.
Salut. À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Avec toi maintenant, Steven, sur la. Alors, c'est. Je crois que c'était le 1er mai, toi. Enfin, non, il y a
non,
1er
c'était,
mai.
C'était, le, 11, de... c'était le 11 mai que je non, me mais... suis un peu baladé.
Ouais, mais t'as fait. Oui, t'as déjà fait le 1er mai la semaine dernière, c'est ça que j'allais dire. Et puis finalement, tu t'es promené aussi le 11 mai.
C'est ça. Donc, un sacré mois le mois de mai. Hein. Déjà, on a eu notre 1er mai habituel. Hein. Même les nazis, ils ont eu leur journée. Hein. Donc, Macron, il le tient en même temps. Hein. Tu sais, c'est en même temps qu'il donne la première commémoration de l'abolition de l'esclavage en dehors de Paris et en même temps. La gestion de la Kanaki par l'abject Darmanin.
Oh là, mais c'est grand écart.
Ouais, allez, non, mais c'est ça. Non, mais
on y va, t'inquiète.
La Macronie.
Ouais, c'est ça.
Ah, c'est fou furieux, ils envoient l'armée pour mater la population et ils suppriment TikTok. Ouais. Ah, mais il faut arrêter avec ces tocards. Hein. Bientôt, Macron, il va nous dire Darmanin is the new Michel Rocard. En attendant, la Kanaki, ça fait partie des 17 territoires considérés par l'ONU comme non décolonisé.
Absolument. Et si comme on parle de colonisation, le 11 mai, c'était... Qu'est-ce que ça fait?
Effectivement, le 11 mai, au cours de ma petite balade, je suis allé à la manif du collectif Urgence Palestine, qui a de nouveau manifesté, hein, comme un samedi sur deux. Mmh. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ce lundi-là, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt international contre le nazi sans prépuce, là, pour crime contre l'humanité.
Il n'y a
pas que lui, mais il est dans le lot.
Ouais, hein. Je vois bien.
Le soutien contre le génocide à Gaza continue, hein, aussi dans les rues d'Orléans. Et moi, je suis allé à cette manif, notamment parce que j'espérais pouvoir y voir des étudiants. Donc, verdict.
Je vais vous lire un petit peu, un petit texte sur les étudiants. Il y en a ici. Il y a des étudiants. Ok.
Ok, ok. Ouais, il y en a pas tant que ça.
Non, non, non. Alors, soit il n'y avait pas d'étudiants, ou alors ils sont très timides. Hein. Ouais. C'est dommage, hein, parce que les prises de parole ont pas mal soutenu les mouvements étudiants à travers toute la France. Mmh. Ah, pour vous dire, il y a une dame random qui a pris la parole pour soutenir la mobilisation étudiante. Écoutez.
Sur les étudiants, je trouve que nos gouvernants ont la mémoire courte. Ou bien, ils étaient peut-être trop jeunes et leurs parents ne leur ont pas raconté que contre la guerre du Vietnam, ce sont les étudiants qui ont protesté les premiers, de même que contre la guerre d'Algérie.
Ouais, non, c'est toi dans le
texte. Ah oui, c'est oui, évidemment, ouais, le Vietnam, l'Algérie. Des conflits anticoloniaux, on y revient.
On y revient toujours. Hein. Entre 1954 et 1959, la France était largement indifférente à la guerre d'Algérie. Ce sont les étudiants qui ont manifesté en premier leur opposition à la guerre, et cela même avant le mouvement ouvrier. Ces mêmes étudiants qui, au sortir du combat contre la guerre d'Algérie, se tournent vers le Vietnam, une mobilisation qui préfigura comme l'une des caractéristiques de mai 68. Bon, là ça va pas, clairement, les étudiants orléanais, hein. Ils sont où nos turbo-gauchos étudiants wokistes boostés aux graines de lin, là?
Ouais, non mais je pense ouais, ils viendront la prochaine fois, je pense.
Ouais, bon.
Ils écoutent Campus, ils écoutent Abattoir Rompu. Allez-y, les gens.
C'est ça, il faut venir. Et en attendant, je crois que le collectif Urgence Palestine avait un petit mot pour vous.
Nous appelons les personnels des universités à soutenir le mouvement et les directions à désobéir aux injonctions répressives du gouvernement. Après Sciences Po et la Sorbonne, nous saluons l'extension du mouvement à de nombreuses universités à travers le pays. Nous invitons toutes les forces politiques, syndicales, associatives, attachées aux droits et à la liberté du peuple palestinien, à concrètement soutenir le mouvement étudiant pour la Palestine.
Mais ta journée, c'est pas terminé là.
Et effectivement, ensuite, je me suis rendu à Saint-Jean-de-Bray où se tenait le premier événement organisé par BUPEAD, donc l'association Bougeons à l'unisson partout pour les enfants autistes et handicaps divers. Je vais laisser Angeline, la présidente de l'association, en parler.
Donc BUPEAD a pour but vraiment de créer du lien social entre les parents. Ça a d'abord été créé par des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Donc les parents qui se sont mis ensemble, qui se sont dit « il y a quelque chose à faire ». Sur Saint-Jean-de-Bray. Saint-Jean-de-Bray, c'est une très belle ville, mais il n'y avait pas d'endroit pour nous, les mamans, les parents d'enfants en situation de handicap, où on pouvait se retrouver pour parler de notre quotidien qui n'est pas souvent simple et tout. Donc, nous avons décidé ensemble de créer cette association pour créer vraiment du lien, pour que les parents se parlent, pour organiser des événements, pour organiser des sorties, des rencontres, sensibiliser aussi à l'autisme, de dire que la différence, ce n'est pas une tare, que l'autisme, ce n'est pas voilà, une fatalité, que tout, on peut y arriver. Si on met en évidence le potentiel de ces enfants, nous pouvons arriver à faire quelque chose de bien. Voilà, pouvons en tirer du positif par rapport à ces enfants. Il faut simplement qu'ils soient bien regardés, bien encadrés, et puis que voilà, qu'ils soient simplement aimés et puis valorisés pour ce qu'ils sont.
Et donc ce samedi, l'association organisée au centre social du Pont Bordeaux un samedi dansant afin de faire connaître la cause auprès du quartier. Je vous laisse écouter comment ils s'y prennent.
Voilà, donc c'est une journée vraiment qui est faite, une journée festive, c'est une journée où voilà, tous les talents vont être là parce qu'ils ont fait une chorégraphie qui vont nous mettre en évidence tout à l'heure et tout. Voilà, une journée dansante, une journée festive, ouverte à tous. Voilà.
Et les enfants qui ont fait une chorégraphie?
Voilà, tout à fait, les enfants ont fait une chorégraphie, on s'est préparé déjà en avant, des semaines en avance.
Qui a organisé ça? C'est qui la chorégraphe?
On a essayé de le faire, c'était rapide quand même, hein, comme si c'était une première. Mais bon, le but, c'est pas de faire une chorégraphie, voilà, que ce soit magnifique. Le but, c'est que les enfants puissent s'amuser, jouer et tout ça. C'est le but pour nous, en fait.
Ouais, donc c'était une chouette chorégraphie qui montre que les enfants en situation de handicap sont tout aussi capables, pour peu qu'on leur donne du temps.
Après, quand une association comme celle-ci se crée, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'elle répond à une défaillance de l'État.
Effectivement, c'est une question que je leur ai posée. Malheureusement, l'asso, elle est toute neuve et du coup, elle ne veut pas faire trop de vagues. Mais c'était clairement ce qui se disait en fond. Donc j'ai un peu creusé.
Okay. Tu vois, le but du gouvernement, c'est vraiment inclure ces enfants dans tous les milieux ordinaires. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, hein, mais il y a encore trop à faire. Parce que ces enfants, des fois, ils sont refusés dans certains lieux. Moi, l'année dernière, Emmanuel a été refusé dans un lieu de vacances. D'où le déclic vraiment de cette association.
J'en veux envie.
Parce que pour sa différence, on a appelé le lieu de vacances et tout.
bah, les enfants allaient en vacances et tout ça. J'ai expliqué le cas d'Emmanuel en disant c'est un enfant qui a une particularité, mais voilà, il est tout mignon, il n'est pas agressif et tout, il suit les consignes et tout. Mais simplement, il faut juste, voilà, au niveau de la toilette, ouvrir eau chaude, eau froide et tout. Voilà. Le monsieur m'a dit, le directeur de cette cellule de vacances m'a dit, écoutez, on vous rappelle. Ben, je lui dis, ben, écoutez, si, je pense que si c'est une problématique, parce que mon fils est différent, moi je suis personnel de la petite enfance, je suis assistante maternelle, je vais accompagner pour pouvoir aussi m'occuper d'Emmanuel et d'autres enfants. Il m'a dit, je vous rappelle, il ne m'a jamais rappelé jusqu'à aujourd'hui, donc c'est vraiment, c'est là où je me suis dit, là il y a quelque chose à faire, et c'est là où naît cette association, pour pouvoir aider aussi les parents comme moi, qui peuvent pas, il y a beaucoup de parents qui ne peuvent pas s'exprimer, moi encore je peux, voilà, bien qu'il y ait un petit peu la barrière de la langue et tout, moi j'ai appris aussi à parler le français et tout, mais il y a des parents qui sont paumés et qui ne savent pas même par où commencer. Je me suis dit qu'on va ensemble, on va porter cette cause même au plus haut de sommet, de dire que le gouvernement, il y a plein de choses qui sont dites, mais quand on est sur le terrain, c'est pas ça, c'est pas ça. Il y a vraiment des problèmes au niveau des écoles, intégrer ses enfants dans les lieux, mais elle est là, Saint-Jean-d'Aruel par exemple, ici, il n'y a pas de lieu de sport pour son fils. D'accord. Moi ça, je me dis, au 21e siècle, ça ne devrait pas exister. On ne devrait pas refuser ses enfants dans les lieux de sport, dans les lieux de vacances, à cause de leurs particularités.
Et ce témoignage que vous venez d'entendre, il s'inscrit dans une réalité. Une réalité mise en avant par une étude de la DRETS, donc la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques.
Redis-le sur le papier.
Non, bon.
Voilà,
non,
ah bon, bon, bon. Bon, allez, bon.
Donc, une étude qui a été publiée en décembre 2023. Les enfants en situation de handicap restent très largement gardés par leurs parents.
Et, bien sûr. Mais comment tu expliques ce phénomène ?
Ce que pointe du doigt l'étude, c'est un manque d'effectifs formés, une charge de travail supplémentaire et un manque à gagner. Ajouté à cela, un accueil plus souvent à temps partiel, des signes de maltraitance, et vous comprendrez dans quel contexte s'inscrit l'association BPAD. Selon l'UNAPI, 30 000 enfants seraient encore sans solution aujourd'hui. Là encore, l'inégalité d'accès à l'éducation n'a pas échappé au dernier rapport d'activité de la Défenseure des droits, que j'aime bien citer, hein, qui révèle que de nombreuses saisines pointent l'ineffectivité des décisions octroyant des accompagnants. En un sens, cette question rejoint la lubie du gouvernement Attal, hein, qui est à savoir l'école. Ouais. Et donc, je repose la question posée par la Défenseure des droits. Faut-il adapter les enfants à la société, ou est-ce à la société de s'adapter aux enfants ?
Bien sûr. Très belle question et très beau reportage. Merci à toi, Steven. Nous allons, sans transition musicale, passer l'interview de Catherine Pélage. Aussi,
à bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Histoire de vous dire qu'on est sur les deux radios, qu'on est très écoutés. On a, je crois, à peu près 1 milliard d'auditeurs. Catherine Pélage, professeure d'université. Elle est professeure en littérature et culture d'Amérique latine à l'Université d'Orléans. Elle est aussi directrice de la chaire Les Sœurs Mirabal, qui a été créée en novembre dernier sur la culture de la République dominicaine. Vendredi prochain, je vous disais en début d'émission, une table ronde a lieu à l'hôtel du Pont-Loup à Orléans autour de deux musiques de cette petite République. Hein, vraiment. Vous connaissez la bachata, vous connaissez le merengue avant. Ces deux musiques sont reconnues maintenant par l'UNESCO. Et il y aura de très belles personnes autour de la table. Un événement que j'aurai le plaisir de présenter si vous avez envie de voir le physique de radio que j'ai, venez donc vendredi, vendredi à 18h. Je laisse Catherine Pélage présenter donc les principaux invités.
Caroline Bourgine, qui est journaliste. Alors, elle a énormément travaillé. Elle a travaillé à France Inter, à France Culture, à RFI, grande spécialiste des Caraïbes. Elle a publié en particulier un livre qui s'appelle Guadeloupéen, sur la culture guadeloupéenne. Et elle vient de publier Dictionnaire des Caraïbes, un itinéraire poétique, qui est une exploration très personnelle, subjective, comme elle le dit elle-même, de la culture des Caraïbes, et elle fait une place belle à la musique également des Caraïbes.
Alexander B. Alors, je n'arrive pas à dire son nom.
Beyancé. Alors, Alexander Beyancé, qui est un des grandes, enfin, une des personnes qui contribue fortement à la diffusion de la musique dominicaine en France. Il a créé la première radio en France consacrée à la musique et la culture dominicaine, notamusical.fr. Il est également le promoteur d'un groupe de musique traditionnelle dominicaine, merengue, bachata, qui s'appelle OLAS. Et il a travaillé également en lien avec l'UNESCO pour la reconnaissance du merengue et de la bachata au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
Parce qu'il faut le dire, ces deux musiques-là sont reconnues définitivement par l'UNESCO.
Oui, tout à fait. Elles sont reconnues. Alors, musique et danse.
Et danse, hein.
Ouais, musique et danse. Oui.
Il y aura également une artiste qui vient de là-bas, alors je suis très impatient de la rencontrer, Léna Dardelet,
oui.
Qui a une très belle trajectoire.
Elle a une très belle trajectoire, Léna Dardelet, qui est une artiste d'origine française. Ses deux parents sont français, mais ses deux parents se sont installés en République dominicaine, donc elle est née en République dominicaine, elle vit en République dominicaine. Elle est partie étudier la musicologie au Canada, puis est revenue en République dominicaine. Elle chante de la bachata, du merengue, en français, en espagnol, plus toutes sortes d'autres compositions dans lesquelles elle mêle des diverses influences musicales et culturelles, ce qui pour elle représente la richesse des Caraïbes.
Empezamos sencillo, como el agua del río. De pronto entendí que ya tú no eras el mismo. Yo pensé que te había olvidado, pero resulta que quedé en el pasado. Dímelo, ay, dímelo. Yo pensé que te había olvidado, pero resulta que quedé en el pasado. Dímelo, ay, cuéntamelo. Eso fue muy sano y tampoco fue en vano. Recuerdo nuestra mano. La promesa.
Et elle a une très belle carrière, hein. Si on nous avait dit qu'une Française serait une des stars de la bachata dominicaine, hein, ce serait. Oui, non, mais vraiment. Elle est en tournée en ce moment. Elle va revenir en France exprès. Oui. Pour cet événement du 24.
Ah, c'est vraiment un honneur qu'elle nous fait parce que là, elle est en train de réaliser une tournée internationale. Elle est au mois de mai. Elle a fait des concerts au Costa Rica, aux États-Unis, à New York en particulier, et elle fait véritablement un aller-retour en France pour venir nous voir spécifiquement à Orléans. Donc c'est vraiment un immense plaisir et un grand honneur que nous fait Léna Dardelet.
Un autre succès il y a 3 ans de Léna Dardelet.
Tu m'as chanté sans le savoir. Dans la foule, un regard qui me rappelle l'espoir, les chemins de la romana, des baisers hasta la madrugada. Mais le temps se vuelve poco, la distance nous sépare tan pronto.
Ce morceau s'appelle Bachati. On avait oublié de dire qu'il y aurait aussi autour de la table Jérémy Croubeau qui revient pour parler et du reggae et des musiques des Caraïbes dont il est spécialiste.
Ah oui, tout à fait. Et c'est important parce que Jérémy Croubeau était parmi nous déjà lors de la table ronde de l'année dernière. C'est un grand spécialiste du reggae et véritablement c'est en écoutant ce que disait Jérémy et puis une étudiante aussi qui parlait de la salsa et puis en voyant aussi les réactions du public qu'on s'est dit que vraiment on avait matière à continuer à parler de musique et à centrer cette nouvel événement de la semaine de l'Amérique latine et des Caraïbes sur la musique.
Venez, c'est le 24, vendredi 24, c'est à partir de 18h à l'hôtel du Pont-Loup, je crois qu'on dit ça exactement comme ça.
Exactement.
Au centre-ville. Venez parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y aura donc Caroline Bourgine, on le rappelle, directrice, une spécialiste de cette musique, de cette partie du monde. Alexander Beyancher, qui est aussi un musicien et un spécialiste, directeur de radio notamment, créateur de radio et d'un groupe, Jérémy Crobo-Danini. Et vous-même, vous serez là, évidemment, Catherine Pellage, pour parler de ce pays que vous connaissez très bien, la République dominicaine.
Et oui, et puis et j'insiste aussi sur le fait que la personne qui va animer toute la soirée, c'est Hassan qui de Radio Campus, qui le fait très bien. C'est toujours un régal de travailler avec toi. Donc
de souci. Je serai là. On va l'enregistrer d'ailleurs et on va vous le remettre. On va vous le diffuser sur l'antenne de Radio Campus. Alors oui, on va l'enregistrer, on va le diffuser, ce document, on va la diffuser, cette table ronde. Oui, belle voix, mais juste après, monsieur Erwan, vas-y, dis bonjour.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous.
Mademoiselle, attends, redis bonjour.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours pour encore 10 secondes.
Absolument.
Les Tourangeaux nous suivent encore une dizaine de secondes. J'ai juste un mot à dire pour les Tourangeaux.
Oui.
Ondulation à Orléans. Dans 5 secondes, vous passez à la suite de la programmation de Radio Campus Tours, mais vous pouvez continuer à nous écouter sur...